Bonjour, chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce Tour d'horizon du 10 février 2017. Comme vous le savez, le Tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. Germain Belzile, qui est chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal et qui va commenter un article de Michel Kelly-Gagnon intitulé « Finalement, Trump sera-t-il pour plus de libre-échange? » Monsieur Belzile, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Belzile, on tend à croire que Monsieur Trump ne veut que du bien pour les États-Unis. Qu'est-ce qui porte à croire, Monsieur Kelly-Gagnon, que la renégociation de l'ALENA serait profitable pour le Canada?
Bien, en fait, il faut comprendre qu'on peut vouloir du bien pour son propre pays et faire du bien aux autres pays aussi en même temps dans le cadre du commerce international. Ce n'est pas un geste somme nulle. Un geste somme nulle, c'est une situation où on a un dollar sur on met chacun 50 cents, par exemple, sur la table, on tire à pile ou face, et puis le gagnant ramasse les deux 50 cents, donc un dollar, puis l'autre n'a rien. Donc, dans le fond, on a apporté chacun 50 cents sur la table, et puis il y en a un qui part avec un dollar, puis l'autre part avec zéro. Donc, on a juste partagé le montant en deux. Et ça, c'est ce qu'on appelle un geste somme nulle. Mais c'est pas le cas du libre-échange et du commerce international en général. En fait, quand on fait du commerce international, les deux parties, normalement, s'enrichissent dans le commerce. C'est une grande découverte, ça, d'il y a 200 ans. En 1817, David Ricardo a publié un livre et puis ça va même transformer complètement la vision économique du commerce international. Alors, c'est tout à fait possible, en fait, que M. Trump, s'il cherche à avoir plus de libre-échange, qu'en fait, il améliore la situation américaine et la situation canadienne en même temps.
Mais est-ce qu'il y a des exemples concrets qui peuvent être mis sur la table? Parce qu'on sait, ça a peut-être été discuté il y a 200 ans, mais est-ce que ça s'applique encore aujourd'hui?
Ah, tout à fait. Mais d'ailleurs, en fait, la prospérité mondiale, qui est beaucoup plus grande maintenant qu'il y a 50 ans, par exemple, on s'entend très bien entre économistes pour dire qu'on n'aurait pas le même niveau de prospérité si on était resté replié et refermé sur nous. D'ailleurs, quand on regarde la mondialisation, il n'y a à peu près pas de pays qui volontairement se tiennent à l'écart de ça, parce que c'est une recette, si on se tient à l'écart de la mondialisation, c'est une recette pour rester pauvre, tout simplement. Et si on regarde des exemples très, très concrets pour entre le Canada et les États-Unis, bien, il y a plein de secteurs dans lesquels il n'y a pas de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Et puis, selon un document dont parle M. Kelly-Gagnon dans son article, alors selon un document qui a été coulé, en fait, M. Trump a réuni des gens d'affaires américains. Il leur a demandé de former un comité et de regarder l'ALENA, puis il leur a demandé très explicitement: trouvez-moi des choses qui devraient être améliorées dans l'ALENA. En fait, trouvez-nous des choses là, qui sont actuellement des contraintes au libre-échange. Et quand on va négocier, on va tenir compte de ça. Et puis, il y en a plusieurs, en fait.
Oui, mais ça, c'est intéressant. Mais dites-moi, les médias semblent diaboliser M. Trump, et spécialement le fait qu'il veut remettre en question les clauses de l'ALENA. Et il y a plusieurs commentateurs qui s'inquiètent. Qu'est-ce qui fait que, d'une part, on s'inquiète, mais d'autre part, comme M. Kelly-Gagnon, lui, il voit ça d'un bon œil. D'où vient ce décalage?
OK. Alors, en fait, il y a des raisons d'être inquiet, puis il y a des raisons d'être plutôt réjoui. Les raisons d'être inquiet, c'est que M. Trump veut plus ou moins forcer la main aux entreprises pour qu'elle ramène de la production aux États-Unis, qu'elle ramène des emplois aux États-Unis. C'est surtout le Mexique ici qui est visé, et puis la Chine aussi, qui n'est pas dans l'ALENA, mais elle est visée aussi, il n'y a aucun doute là, par ses paroles. Et ça, c'est plutôt inquiétant, parce que ça voudrait dire qu'il voudrait peut-être ériger des barrières tarifaires, donc augmenter les tarifs douaniers, ou en imposer de nouveaux, et on s'éloignerait du libre-échange. Mais en même temps, il dit dans ses discours, puis dans ses tweets, que la grande raison pour laquelle il n'est pas content, c'est pas il n'est pas content contre le libre-échange. Il n'est pas content parce qu'il pense que les autres ne jouent pas fair play, que les autres sont injustes et trichent, si on veut, dans les à travers les règles qu'on s'est imposées avec des traités. Mm-hmm. Et puis, à cet égard-là, ben, s'il veut forcer les autres pays à cesser de ne pas jouer fair play, et vraiment appliquer un vrai libre-échange, ben là, ça devrait être réjouissant, je pense. Et puis, il y a plein d'exemples là-dedans. Un bel exemple, je pense, c'est le secteur agricole canadien, où une partie est vraiment en situation de libre-échange. Le blé, par exemple, les fruits, les légumes, tout ça, mm-hmm. c'est vraiment du libre-échange. Mais il y a un segment important du secteur agricole qui est hors limite hein, pour le commerce international. C'est entre autres ce qui est sous la gestion de l'offre. Donc, mm-hmm. le lait, les produits laitiers, la volaille, les œufs. À titre d'exemple, le tarif douanier sur les œufs, c'est 238%. Le tarif douanier sur le beurre, c'est 298,5%, donc presque 300%. C'est pas du libre-échange. En fait, il y a à peu près 5% de la consommation canadienne dans ces secteurs-là qui est importée libre de droit. Et dès qu'on dépasse 5%, bien là, c'est les tarifs douaniers de l'ordre que ceux de ceux que je viens de vous nommer. Mm-hmm. Et y a des producteurs américains de lait, de fromage, de tout ça, ils sont vraiment pas contents. Et ça fait des années. Et là, quand ils ont vu le président Trump être élu sur son programme, bien, en fait, ils ont commencé à faire des représentations. Et puis, ils ont fait une lettre ouverte assez importante, en fait, signée par beaucoup, beaucoup de gens, les producteurs de lait des États-Unis, les producteurs de lait des différents États, mm-hmm. les ministres de l'Agriculture de chacun des États laitiers aux États-Unis et le Conseil des dairy producers, donc des producteurs de produits laitiers, donc fromage, yogourt, etc. Ils ont dit très ouvertement dans leur lettre, il faut que ça cesse, ce système-là. C'est un système qui n'existe plus qu'au Canada maintenant. Il existait dans plusieurs pays qui l'ont tous abandonné, et encore juste nous. Et puis, c'est un secteur dans lequel il n'y a pas de libre-échange.
Oui, mais là, vous soulevez un point, puis ça sort un petit peu des sentiers battus de l'article de M. Kelly Gagnon, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui avons voyagé en Europe, par exemple, et je me souviens, avant qu'il y ait eu plusieurs attentats en Europe, il y a quelques années, on pouvait passer d'un pays à l'autre sans passer par des douanes, techniquement. Moi, je me souviens, j'ai traversé un pont entre la France puis l'Allemagne. Il y avait un soldat, il me saluait de la main. J'ai continué, il ne m'a pas demandé d'arrêter. Entre la France et l'Espagne, les voies étaient ouvertes, carrément ouvertes. On passait d'un pays à l'autre, il n'y avait aucune fouille, aucune question, rien. Puis nous, on parle de libre-échange nord-américaine. On parle de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, mais on passe aux douanes, on est questionné, il y a des frais limites, où il y a un taux limite de dépenses, par exemple 800 $ si on est là pour une semaine et plus. Pourquoi on appelle ça un libre-échange s'il y a tant de restrictions puis il y a tant de règles du jeu?
Mais en fait, c'est pas un vrai libre-échange qu'on a signé dans le cadre de l'ALENA. On appelle ça l'accord de libre-échange nord-américain, mais en réalité, c'est pas ça. En fait, l'accord de libre-échange, quand il a été signé en 1994, mm-hmm. il faisait plus que 10 000 pages.
Oh là là!
Alors que normalement, un accord de libre-échange, ça fait 3 pages à peu près. Là. Mm-hmm. On enlève toutes les barrières au commerce entre les pays, puis on signe, puis c'est tout. Là. Mm-hmm. Mais les plus que 10 000 pages, c'était des restrictions, des limites, des choses comme ça. Et puis, entre autres, il y avait plein de pages sur le fait que le Canada protégeait certains secteurs. Il y avait plein de pages sur plein d'autres choses. Et puis, donc, c'est pas un vrai libre-échange. En fait, ça ressemble à quelque chose qui est entre un accord sectoriel de libre-échange. Donc, il y a un secteur ou des secteurs qui sont dans le libre-échange, et puis un vrai libre-échange. Et puis, vous avez tout à fait raison, il y a des restrictions importantes.
Ben oui.
Et puis, une des restrictions importantes qui a attiré l'œil, si on veut, des gens d'affaires réunis en comité aux États-Unis, c'est le fait qu'on a le droit d'importer au Canada pour 800 $ de biens américains quand on va passer au moins 48 heures aux États-Unis, mm-hmm. mais seulement une bouteille d'alcool, par contre. Et ben, l'alcool est beaucoup moins cher là-bas. Alors, les Américains, eux, ne sont pas aussi restreints, en fait, à cet égard-là. Et même chose pour le tabac. Et c'est parce que les gouvernements des provinces et fédérales au Canada veulent percevoir des taxes. Hein, et puis, Donc, ça limite le libre-échange. Et puis, moi, j'ai l'impression que ça va être sur la table quand il y aura une négociation et qu'on va se faire mettre beaucoup, beaucoup de pression. Et tant mieux pour les consommateurs, parce que ça voudrait dire que, en fait, ça va mettre de la pression, entre autres, si on est capable de rapporter beaucoup plus d'alcool des États-Unis, ça va mettre de la pression sur les SAQ et sur les autres monopoles d'État canadien. Ils ne pourront pas garder les prix élevés à cause des taxes qu'on a ici. Ils ne pourront pas continuer comme ça parce que les gens vont tout simplement aller acheter leur alcool aux États-Unis.
C'est intéressant. Mais en terminant, j'ai une dernière question pour vous. Les médias nous ont appris que M. Trudeau allait faire une visite à Washington. Et quelle attitude devrait-il avoir? Est-ce qu'il devrait avoir le poing sur la table en disant « Non, nous, on garde nos positions. » Est-ce qu'il doit avoir une attitude « OK, je vais faire ce que vous dites, M. Trump. » Est-ce qu'il doit avoir une attitude de négociateur? Selon vous, ce serait quoi la meilleure attitude à adopter pour M. Trudeau?
Bien, en fait, je pense que dans une négociation, on donne, mais on s'attend à recevoir aussi. Et puis, je pense que ça serait de bonne guerre que de demander un peu la réciproque et du côté américain. Et puis, il y a un truc qui est vraiment irritant pour les Canadiens depuis très, très, très longtemps, et puis c'est le conflit du bois d'œuvre, où on n'arrête pas aux États-Unis, on signe des ententes avec eux, puis quand l'entente vient échéance, on nous remet des droits sur le bois d'œuvre canadien. C'est mauvais pour les consommateurs américains. Ils paient leur maison plus cher parce que les 2x4 qu'il y a dans leur maison coûtent plus cher parce qu'il n'y a pas un vrai libre-échange dans ce secteur-là. Alors moi, je pense que si les Américains demandent au gouvernement canadien de faire du chemin du côté des œufs, de la volaille, du lait, du côté des restrictions sur la quantité d'alcool qu'on peut rapporter au Canada en venant des États-Unis et des choses comme ça, mais je pense que ce serait vraiment de bonne guerre de dire, écoutez, on va faire tout ça, mais vous-même, de votre côté, là, vous n'êtes pas tellement cocheux non plus dans certaines choses. Mm-hmm. Et puis, on aimerait ça avoir une vraie entente finale et définitive sur le bois d'œuvre. Puis, qu'est-ce que vous diriez que ça fasse partie de la négociation, ce truc-là? Qu'on laisse pas ça à un ministère un peu obscur aux États-Unis là, de négocier ces trucs-là, mais qu'on le fasse vraiment dans le cadre d'une négociation dans l'ALENA. Et je pense que le premier ministre Trudeau, s'il est stratège, c'est bon stratège, et puis si il y a une vraie négociation, ben il va être capable de revenir en disant nous avons cédé des choses, mais les choses qu'on a cédées, c'est bon pour nos consommateurs, c'est bon pour le Canada. Et puis, on a obtenu des choses aussi en termes d'un accès plus vaste, plus important au marché américain. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut espérer que Justin Trudeau va se présenter aux États-Unis.
Eh bien, merci beaucoup, M. Belzile. Je pense que vos propos ont contribué à éclairer nos auditeurs. Et j'invite les auditeurs du 92,7 FM à lire cet article de Michel Kelly-Gagnon qui s'intitule « Finalement, Trump sera-t-il pour plus de libre-échange? » Eh bien, sur ce, M. Belzile, je vous souhaite une bonne journée.
Bien, merci beaucoup de l'invitation.
Au plaisir. Au revoir.
OK, au revoir.
C'était M. Germain Belzile, chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal, qui venait commenter l'article de M. Kelly-Gagnon qui s'intitule « Finalement, Trump serait-il pour plus de libre-échange? » Il nous a parlé de l'ALENA et des négociations entre le Canada et les États-Unis. Maintenant, mesdames et messieurs, à ce stade-ci, j'aimerais vous poser la question suivante. Selon vous, quelle approche Justin Trudeau devrait-il adopter face à la renégociation de l'entente de libre-échange canado-américaine? Devra-t-il avoir le poing sur la table? Tenir la ligne dure, montrer qu'il est féroce, devra-t-il avoir le genou par terre et donc se plier devant les demandes de M. Trump ou devra-t-il être un fin négociateur? À vous de me le dire, mesdames et messieurs. Mais avant de clore cette émission, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à lundi.